Bonjour à toi, oui, toi derrière ta radio qui écoute cette émission, bienvenue dans Contre-Champ. Aujourd'hui, on est avec Grégory du K56, bonjour Grégory.
Bonjour.
Et un cinéphile surprise que je ne dévoilerai qu'au moment de la chronique du cinéphile. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas celui qui est le plus joyeux, c'est vrai, c'est les films qui traitent d'une de mes périodes de l'histoire préférée. La guerre du Vietnam, elle me fascine, mais je sais pas pourquoi. Dans cette émission, on parlera pas des documentaires, parce que les documentaires, j'en regarde pas. On parlera des films que je trouve intéressants, qui montrent le mieux l'ambiance de la guerre, qu'est-ce que ça peut être, et des conséquences. Les films les plus originaux, et quelques autres, juste pour le plaisir. Évidemment, la plupart des œuvres dont je vais parler ne sont sorties qu'après 1975, tout simplement parce que à cette époque, pendant la guerre, l'État censurait les films et donc ils ne pouvaient pas sortir. Les films sur la guerre du Vietnam sont surtout sortis dans les années 80-90, mais on peut retrouver certains films qui parlent du Vietnam très récemment, comme dans Pentagon Papers en 2017. Mais véritablement, les premiers films sur les conséquences de la guerre, vous le connaissez sûrement, il est sorti en 76 et il a été réalisé par Martin Scorsese avec Robert De Niro dans le rôle titre. Tu pourrais deviner c'est quoi ?
Apocalypse Now ?
Non, Taxi Driver.
Ah oui.
Taxi Driver qui parle en fait d'un chauffeur de taxi qui est un vétéran de la guerre du Vietnam, et donc c'est ce premier film qui parle des conséquences de la guerre, qui sera suivi ensuite, 3 ans après la fin de celle-ci, par un film qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer, qui parle de 4 amis qui sont envoyés au Vietnam et qui en reviennent avec des séquelles ou physiques ou psychologiques, et c'est ce film qui ouvre toute une série de films qui parleront des conséquences post-guerre du Vietnam. On a entre autres Né un 4 juillet avec Tom Cruise qui troque son charisme légendaire pour une espèce de moustache de rider redneck, comme j'en ai jamais vu, c'est super cool. Sinon, on a le droit à Birdie en 1984, l'atmosphère bien plus sombre qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Mais le plus connu sur les traumatismes post-Vietnam, je suis sûr que tu le connais, on va jouer à un jeu. Alors, le but du jeu est simple, je dis 3 mots et vous devez trouver en quoi ça correspond. Voici les 3 mots, stop, bandana, mitrailleuse et muscles huilés.
Le seul qui porte un bandana et qui utilise mitrailleuse et qui a surtout les muscles huilés, c'était Rambo.
Ouais, c'était Rambo! Rambo, le premier film, sort en 1982 et il parle du traitement réservé aux soldats de la guerre du Vietnam, en fait, au retour du Vietnam. Le second, il parle du Vietnam, mais ça se rapproche un petit peu plus du nanar. Ce qui est étonnant lorsqu'on sait que le scénario est signé Cameron.
Ouais, ça se rapproche même, c'est même carrément un nanar, hein. Faut être honnête, hein, pour le coup.
Après, c'est pas au niveau du troisième, le troisième qui parle plus de Vietnam, ni le quatrième qui parle plus de Vietnam non plus. À savoir que Rambo a inspiré toute une flopée de films qui ont fait que surfer sur le succès de cette série, sans prendre forcément le côté psychologique du premier. L'image de Ultime Combat, qui est un film du Tétan qu'il avait pu sortir un jour, tellement il est mauvais. Et la seule évocation du Vietnam, c'est dans le sur la jaquette où c'est marqué
« Au Vietnam, il était le meilleur. Il est encore. »
Le niveau est déjà présent. Mais sinon, il y a une autre série de films que je conseille qui est bien plus sympathique. Et c'est la série des Portées disparues avec Chuck Norris en tête d'affiche. Le premier est franchement chouette. Le second, il l'a regardé. Et le troisième, c'est le troisième. Hein. En tout cas, on y apprend que les Vietnamiens sont fourbés menteurs. Donc retenez ça si vous allez au Vietnam un jour. Hein,
c'est bien parce que c'est pas du tout des films qui entretenaient une bonne relation xénophobe.
Non, pas du tout. Mais avant, on a parlé de films un peu médiocres, mais on va continuer à parler sur des films bien plus mémorables. Mais avant, on va écouter une musique de Guy Lombardo nommée Hot Time in the Old Town Tonight, qui vient de Good Morning Vietnam, un enregistrement de 1945.
must sing, and when the verse is through, in the chorus all join in, there'll be a hot time in the old town tonight. My baby, please, oh do not let me fall. You're all mine, and I love you best of all, and you must be my gal, or I'll have no gal at all. There'll be a hot time in the old town tonight. You must sing, and when the verse is through, in the chorus all join in, there'll be a hot time in the old town tonight. My baby, please, oh do not let me fall. You're all mine, and I love you best of all, and you must be my gal, or I'll have no gal at all. There'll be a hot time in the old town tonight.
C'était Old Time in the Old Town Tonight. On avait fini de parler avec des films, faut avouer, qui fleuraient bon la médiocrité. Mais je vous propose de rehausser un tout petit peu le niveau. Donc pouf, retournons un peu en arrière, fin des années 70. À cette période, le réalisateur Francis Ford Coppola réalise l'un des films, le film de référence de la guerre du Vietnam. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu le connais, c'est...
Ah bah là c'est Apocalypse Now.
C'est ça, parfaitement. Apocalypse Now, donc il plonge dans l'enfer de la guerre avec toutes ces calvaires qu'elle peut donner, l'intempérie, chaleur, embuscade, mort, chaos. En tout cas, un tournage difficile, très compliqué, avec plusieurs menaces de suicide de Francis Ford Coppola, pour un film extraordinaire. En 2001 d'ailleurs, il a eu le droit à une version longue nommée Apocalypse Now Redux. Bon, le rôle principal était tenu par Martin Sheen, c'est important, retenez ça. En 1987, en 86, pardon, son fils Charlie Sheen se joue dans un autre film sur la guerre du Vietnam, une référence du film de guerre qui s'appelle Platoon, un autre super bon film que je vous conseille. En 87, donc un an plus tard, un an après Platoon, on a le droit à plusieurs grands films de cette période, plusieurs grands films sur cette période-là, la guerre du Vietnam, entre autres le mythique... Le mythique Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, avec la magnifique prestation de Ronald Lee Hermey en Serge Hartman. C'est magnifique, allez voir ce film. Sinon, on a Hamburger Hill, tiré d'une histoire vraie. Et enfin, Good Morning Vietnam, avec Robin Williams, qui interprète un animateur radio au Vietnam et qui se heurte à la hiérarchie qui n'apprécie pas trop ses paroles irrévérencieuses. Et on va entamer les années 90 et 2000, mais après la musique, San Francisco, qui est de Scott McKenzie, et qu'on trouve dans Forrest Gump.
With flowers in their hair. such a strange vibration, people in motion.
Ah ah, nous revoilà dans Contre-champ. On n'avait pas fini avec la chronique sur la guerre du Vietnam, donc on va continuer, mais on venait d'écouter San Francisco de Scott McKenzie, une super musique qu'on trouve dans Forrest Gump, un film que je vous conseille aussi, mais après. Donc en 90, la guerre du Vietnam est terminée depuis 15 ans, mais c'est la première grosse défaite des États-Unis. En plus, ça a bien terni leur réputation, et donc le souvenir est encore vif, sachant qu'on a eu des films sur cette guerre, de très bons films dans les années 80, donc c'est encore dans les esprits, encore en tête. Et cette année-là, donc en 90, sort un film d'Adrian Lin, mais un film qui a pas fait non plus grand bruit, mais qui a inspiré la célèbre série de jeux d'horreur Silent Hill. Ce film, c'est L'échelle de Jacob, un film d'horreur sur un vétéran de la guerre du Vietnam qui souffre d'hallucinations, vétéran qui est joué par Tim Robbins. Ces hallucinations sont de plus en plus cauchemardesques, et je vous en dirai pas plus parce que le twist de fin et vraiment, je trouve très bien. C'est vraiment un super film que je vous conseille. Dans un genre diamétralement opposé, en 1994, on retourne vers Forrest Gump. Forrest Gump qui s'impose comme l'un des meilleurs films du cinéma. Et c'est pas moi qui le dis, ça, c'est top. Et donc, c'est un film qui parle de l'histoire des États-Unis des années 50 aux années 80-90. Du regard d'un handicapé moteur joué par Tom Hanks. Et arrive la période de la guerre qui aura des impacts sur tout le reste du film, et c'est vraiment une partie assez touchante parce que l'handicapé, donc Forrest Gump, ne rêve pas à voir, à comprendre ce qui se passe, et c'est vraiment super cool. Un an plus tôt, en 1993, Oliver Stone réalise le dernier film de sa trilogie sur le Vietnam, composé de Platoon, né un 4 juillet avec Tom Cruise et sa superbe moustache, et Entre ciel et terre.
Entre ciel et terre, c'est un film qui est super intéressant parce que cette fois-ci, dans le troisième, il choisit le point de vue vietnamien. Et on suit l'histoire d'une jeune fille qui, elle, n'a rien à voir avec la guerre du Vietnam, qui est en fin de compte une petite fille de la campagne et qui va vivre justement les éléments. C'est un clin d'œil aussi à La jeune fille qui a été brûlée. Une photo très célèbre d'une jeune fille, toute petite fille brûlée par le napalm, et qui montre aussi à quel point, malheureusement, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, tous les Vietnamiens ne faisaient pas la guerre.
Non, c'est comme...
Et donc ça montre aussi le retour à la vie après la guerre du Vietnam.
Dans les années 2000, on a pas grand chose en fait. Il y a certains films comme Tigerland, Rescue Down, Hunter Heavy Fire, enfin bref, des films beaucoup moins mémorables que ceux qu'on a vu avant. Pour conclure, la plupart des films sur la guerre du Vietnam critiquent celle-ci. Très rares sont ceux qui l'applaudissent. Faut comprendre que la guerre du Vietnam, ça a été un traumatisme pour les États-Unis vu que ça a été leur première grosse défaite, et en plus ça a foutu un choc à la réputation de gagnant des États-Unis, vu que c'était eux qui étaient considérés comme des méchants maintenant. De plus, ça a été un des conflits les plus désastreux et inutiles qu'il y ait eu, avec je pense, hein, plus de dommages collatéraux que de victimes de guerre, que de victimes de santé en termes de soldats ou autres. Il y a eu, je pense, plus de civils de morts que de soldats. Après, je sais pas, je sais pas les chiffres, et les chiffres ne sont même pas donnés, en fait. On n'a pas les chiffres officiels.
J'ai oublié.
Les soldats en sont ressortis traumatisés, et certains en ont même fait des films, comme Oliver Stone. Mais c'est qu'à partir des années 80 que les langues se sont déliées, je ne sais pas pourquoi, je dois avouer, est-ce que t'as une théorie ?
Ouais, je pense que c'est la maturité, surtout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tous ces soldats, ils étaient jeunes, puisqu'en l'occurrence, ils sont tous partis entre 18 et 20 ans pour aller faire la guerre du Vietnam. Et après, il a fallu aussi, pour qu'ils puissent donner leur avis en faisant des films, il a fallu surtout qu'ils reviennent, qu'ils reprennent pied dans la vie, mais surtout qu'ils se construisent une réputation de manière à pouvoir être des réalisateurs, des scénaristes, des compositeurs et tout ça. Donc il a bien fallu encore au moins une dizaine ou une quinzaine d'années. Parce que les motivations de cette guerre du Vietnam, elles sont finalement extraordinairement politiques, elles sont économiques. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très compliqué.
C'est assez tabou, ouais.
Donc, je pense que c'est ça, en fin de compte, années 80, parce qu'il y avait une forme de maturité aussi. Tous ces jeunes soldats, bah, ils étaient plus jeunes, ils étaient plus soldats, puis surtout, ils étaient à la tête des films, à la tête des productions, à la tête de tout ça.
Là, on va passer, on va, ça va être la fin de la chronique, donc on va continuer avec, après une musique que tous les amateurs de Vietnam connaissent, une musique d'époque, qui est présente dans Forrest Gump, Good Morning Vietnam, Apocalypse Now et tout ça, c'est évidemment
Fortunate Son.
Voilà, on a fini avec la chronique sur la guerre du Vietnam et on venait d'écouter Fortunate Son du groupe Creedence Water Survival. J'ai vraiment dû faire un super choix de musique pour cette émission parce qu'il y a énormément de musique qui ont été faites pendant cette période, des super titres que je vous conseille tous. Donc c'est terminé pour cette chronique, mais pas pour cette émission. Donc on va directement passer sans transition à l'émission, à la rubrique... Comment ça marche avec Professeur C'est des trucs.
Monsieur, excusez-moi, est-ce que je pourrais savoir comment ça marche ?
Mais évidemment, laissez-moi vous expliquer.
Comment ça marche ?
Bonjour tout le monde, je vais vous apprendre comment on fait un disque vinyle. D'abord, pour faire un disque vinyle, il faut un disque original en aluminium, un disque tout plat et lisse qui est tendu de laque. Pour faire un enregistrement, on le pose sur une sorte de tour sur lequel le graveur va creuser un sillon continu du bord au centre du disque. L'enregistrement s'effectuait par magnétophone pour profiter du mixage et du montage. Bien que quelques groupes aient directement enregistré sur cire, donc en une seule prise, sans pépins, sinon le disque était à refaire. Le disque gravé est recouvert de métal par la méthode galvanoplastie, c'est-à-dire que l'on le plonge dans de l'argent pour le sauvegarder de l'oxydation et conserver sa conductivité de son signal électrique, ainsi que dans du nickel pour le protéger de la corrosion. Cela sert à pouvoir dupliquer par la suite. On retire ainsi le vinyle et la couche de métal sur celui-ci, et celle-ci est une matrice qui permettra à d'en faire, grâce à une presse, de produire des millions d'exemplaires de ce disque par pressage. Quand on lit le vinyle avec sa platine, celui-ci est posé sur un plateau tournant à une vitesse stable. C'est pour ça qu'on appelle un 33 tours, 78 tours et 45 tours. Un bras pivotant librement est équilibré de façon à s'appuyer très légèrement sur le disque. Et ça, ça porte le nom de tête de lecture. Un stylet muni d'une pointe, qu'on appelle saphir ou diamant, est posé dans le sillon, qui va guider le bras de lecture du début à la fin du disque. Le sillon étant des tracés inégaux, la pointe qui lira fera des vibrations. Le stylet transmet ses vibrations à, attention, c'est du charabia à la Star Trek, hein, donc à un transducteur électromagnétique qui transforme ses vibrations en signal électrique qui iront à la tête de lecture qui les interpréteront en son. En gros, sans trop entrer dans les détails, c'est comme ça qu'on crée un vinyle et que la platine arrive à le lire.
Merci, professeur. On se couchera moins bête ce soir. Sans transition, autre supplémentaire et tout ça, on va passer à la chronique du ciné-film avec Grégory Roger parce que je me suis mal organisé et j'ai pas trouvé de cinéphile à temps.
La chronique du cinéfilm.
À toi Grégory de parler du film qui t'a plu. Fais-nous partager ta passion.
Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un voyage dans le temps, celui de mon adolescence durant laquelle j'ai forgé mes goûts. À cette époque, les films étaient gravés sur pellicule, le petit personnage de Jean Mineur venait jeter sa pioche avant chaque séance et on pouvait encore manger des glaces dans la salle. Être cinéphile, soyons honnêtes, c'est comme être un amateur de vin. On cherche toujours à se démarquer des autres, à ne pas hurler avec les loups. En général, on recherche toujours la petite pépite que personne n'avait trouvée. On vit comme un honneur de faire ressortir du néant un cru méprisé ou dévalorisé. Il en est de même pour le film dont je veux vous parler. Mais trêve de bavardage, pour vous parler de l'œuvre qui nous occupe aujourd'hui, je préfère laisser la parole à l'un des personnages. C'est la princesse Irulan qui sera notre Cicéron.
Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. L'univers connu est gouverné par l'empereur Padishah Shaddam IV, mon père. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. L'épice a fait des navigateurs de la guilde spatiale des mutants après 4000 ans d'usage, car ils absorbent le gaz orange qui leur donne le pouvoir de replier l'espace, c'est-à-dire de se transporter n'importe où dans l'univers sans se déplacer. Ah oui, j'oubliais de vous dire, l'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Caché dans les cavernes des rochers de ces déserts vit un peuple connu sous le nom de Fremen, qui depuis longtemps prophétise la venue d'un homme, d'un messie, qui les conduirait vers la véritable liberté. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune.
Vous aurez tous reconnu le film dont je veux vous parler. Et oui, je vous emmène visiter la planète des sables en compagnie de la famille Atreides. Arrakis est un nom qui résonne à toutes les oreilles des amateurs de science-fiction. Non tant pour l'adaptation cinématographique que pour la saga littéraire qui dure depuis plus de 50 ans et qui marque un jalon essentiel de l'imaginaire sur notre futur. Je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer le film. Je me demande même s'il est si facile d'en donner une image cohérente, tant ce film est un véritable défi. Il s'agissait de rendre compte d'une œuvre d'une très grande complexité. C'est certainement ce qui explique la réception très fraîche faite à ce film au moment de sa sortie en 1984. Dire que les critiques ont été mauvaises est un doux euphémisme. Ce qui fascine dans ce film, c'est aussi l'histoire de sa création. Avant la sortie effective en 1984, l'œuvre de Frank Herbert avait connu deux tentatives d'adaptation qui ont échoué. La première est le fruit de la volonté d'Alessandro Jodorowsky en 1975. L'histoire aurait pu être belle, mais les options quasi délirantes proposées, des acteurs tels que Mick Jagger ou Salvador Dali, une envie de centrer l'histoire sur l'aspect ésotérique, ont rebuté les producteurs et le projet fut enterré. Le second date de 1978 et dure encore moins de temps. Par contre, il permettra d'obtenir la collaboration de Frank Herbert lui-même, qui se noiera dans sa propre adaptation. Au final, la tentative de David Lynch ne paraît pas si facile. Il travaillera pendant 2 ans sur le scénario avec l'obligation de s'inspirer des travaux précédents. Il en tirera une proposition qui aura pour but de concilier un maximum des obligations du cinéma de l'époque. Il faut pas oublier qu'on était dans la période de Star Wars. Il fallait inclure des combats et donner à l'histoire de Paul Atreides la dimension d'un roman d'apprentissage. Celui-ci va passer du statut d'adolescent à celui d'adulte. Il va connaître un certain nombre d'épreuves qui vont le faire progresser dans la connaissance de lui-même. C'est comme cela que l'on peut comprendre la métaphore du fameux dormeur. Écoutez plutôt ce mantra.
La mer me manquera. Mais il faut vivre de nouvelles expériences. Elle crée au fond de nous des modifications qui nous permettent de nous grandir. Il faut changer, sinon quelque chose sommeille en nous, qui rarement se réveille. Le dormeur doit se réveiller.
L'autre aspect intéressant de l'œuvre porte sur la réflexion autour de la religion. Paul Muad'Dib n'est pas seulement un héros chevalier, il est un messie qui va donner une nouvelle force à la religion des Fremen. C'est cet aspect qui sera développé dans les livres suivants et qui peut paraître un peu déstabilisant pour les spectateurs de l'époque. Enfin, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un extrait en version originale cette fois-ci, d'un passage essentiel du film, celui qu'on appelle le Gom Jabbar, l'épreuve qui montre, selon le Bene Gesserit, que nous ne sommes pas des animaux.
You see this? Put your right hand in the box.
What's in the box?
Bane, stop. Put your hand in the box. I hold at your neck the Gom Jabbar. This one kills only animals.
Are you suggesting a duke's son is an animal?
Let us say, I suggest you may be human. Your awareness may be powerful enough to control your instincts. Your instinct will be to remove your hand from the box. If you do so, you die. itching becomes burning. Heat upon heat upon heat. Silence! Silence!
I must not fear. Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. I must not
feel flesh.
I do feel a crisping. Death brings total obliteration. I will face my
flesh. Popping off.
Here. Here is the little death. I must not fear. Here is the little death.
No woman, child, ever withstood that much. Take your hand out of the box and look at it, young human. Do it. Pain by nerve induction. A human can resist any pain. Our test is crisis and observation.
I see the truth of it.
Eh bien, merci, parce que j'ai jamais vu Dune. Peut-être que j'aurais envie de le voir, qui sait.
Juste pour préciser, j'en parle aussi parce que j'ai appris il y a peu de temps que Denis Villeneuve, le réalisateur de Blade Runner 2047, s'était attelé à refaire une version de Dune. Donc on verra bien.
Bah, tu en as parlé au bon moment, ça veut dire.
Voilà.
Quoi qu'il en soit, bah, écoutez, on n'avait pas de cinéphile, donc c'est Grégory qui s'en est chargé. Donc Grégory, sans plus attendre, tu vas pouvoir faire ta chronique, la chronique, ouais,
les
sorties
cinéphiles
du moment. Grégory, tu peux nous dire, s'il te plaît, le programme du Quai 56 Cinéma Associatif de Caire pour les deux prochaines semaines ?
Oui, bonjour à tous. Ça y est, c'est les vacances. Les enfants ne savent pas quoi faire. Eh ben, pourquoi pas une petite séance de cinéma ? D'autant plus que le tarif des séances de l'après-midi est unique. Pendant 2 semaines, tout le monde pourra considérer qu'il a moins de 14 ans et paiera 4 euros. Grâce à nous, vous allez tous rajeunir. Au final, venir au cinéma, c'est comme vivre une véritable cure de jouvence. Bon, trêve de plaisanterie, nous parlions donc de vacances, et qui dit vacances dit festival pour les jeunes. Au programme, de nombreuses nouveautés, telles que le Parc des Merveilles, qui raconte comment les rêves d'une petite fille à propos d'un parc d'attractions vont prendre vie. Pour ceux qui auraient raté les séances, je réitère mon conseil insistant de courir voir le magnifique Aïlo, une odyssée en Laponie. Je me permets de faire un petit arrêt sur un film très attendu des studios Disney. Il s'agit de l'adaptation du dessin animé Dumbo par le génial Tim Burton. Dans ce film, vous pourrez rencontrer les enfants d'un ex-artiste de cirque chargé de s'occuper d'un éléphanto dont les oreilles démesurées sont la risée du public. Les enfants découvrent que le jeune animal sait voler. Il devient alors le centre de l'attention et un objet de convoitise. Dans ce film, Tim Burton a pu laisser libre cours à sa folie créatrice. Je vous laisse écouter la bande-annonce.
Bienvenue, bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand.
Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux, de mystère, de magie. Wow! Venez avec moi.
les ailes de cet éléphant, nous irons très loin.
Pour les plus grands, nous pourrons assister au dernier Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan, qui raconte comment, 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l'impact de ses lettres, que ses lettres ont eu sur leur vie respective. Dans un style un peu différent, je ne résiste pas à vous présenter le dernier Bertrand Blier, Convoi exceptionnel. Comme d'habitude avec ce réalisateur, il est quasi impossible de faire un synopsis. Je laisse les acteurs parler d'eux-mêmes.
Je m'appelle Foster.
Moi, c'est tout peu.
Est-ce que vous ressentez de la sympathie pour moi ?
Aucune.
C'est dommage.
On aurait pu devenir copains.
On a rendez-vous.
Mais pourquoi on a rendez-vous avec lui ?
C'est pour le tuer.
Mais pourquoi il va falloir ?
Mais parce que c'est écrit dans le scénario !
C'est complètement con, cette histoire de tuer un mec. Nous venons pour vous tuer.
Moi, dans mon scénario, il y a écrit « Sors un flingue ». Comment vous faites, maintenant ?
Ben, on vous dit au revoir et désolé pour le dérangement.
Quel est le salaud qui écrit toutes ces conneries ?
Mais j'en sais rien, moi.
Présentation du scénario. Séquence 17. Dans 5 minutes, on boit une bière.
Je ne vous sers pas de bière.
Et pourquoi ?
Les deux connards arrivent. Le patron leur dit « Je ne vous sers pas de bière ».
Vous vous foutez de notre gueule.
La semaine prochaine, nous continuerons sur notre rythme pour les enfants. Ils pourront découvrir les aventures du jeune Willy qui, suite à la destruction de son vaisseau, est séparé de ses parents. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Dans un autre genre, vous pourrez découvrir un nouveau super-héros qui s'appelle Shazam. Un film qui joue avec les codes du cinéma de super-héros pour notre plus grand plaisir.
Billy Batson, c'est toi que je choisis. Comme champion, prononce mon nom et mes pouvoirs seront tiens. Shazam.
Quoi, sérieux ?
Dis-moi !
Ok.
Prononce mon nom.
Shazam !
Pour les adultes, des séances de rattrapage avec Le Chant du Loup, Le Mystère Henri Pic et Mon Bébé. Mais aussi des nouveautés avec Let's Dance qui raconte le combat d'un jeune danseur de hip-hop ou encore Chamboule Tout.
Donc merci Grégory, encore une fois, je ne sais pas pourquoi tu termines toujours l'émission. Donc comme dit maintenant tout de suite, eh bien c'est terminé. Allez, salut.